Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Dans cet Au fil des pages, nous vous proposons de feuilleter avec nous aujourd'hui celle d'un ouvrage collectif intitulé « Sans le latin, point de suspension », paru sous la direction de Cécilia Susoni et Hubert Aupetit aux éditions Mille et une nuits, un département de Fayard, préfacé par Rémi Brague de l'Académie des sciences morales et politiques. Cécilia Susoni et Rémi Brague ont bien voulu nous rejoindre. Bonjour à vous, bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Cécilia Susoni est professeure honoraire de chaire supérieure au lycée Henri IV, où elle a enseigné en cagne moderne et classique le français et le grec ancien. Elle est aussi et surtout la présidente de l'association ALE, c'est-à-dire Association le latin dans les littératures européennes. Donc on doit prononcer le E, ALE.
ALE.
ALE ou ALE, c'est comme on veut. C'est une association qui existe depuis 2008, dont vous allez nous parler, et dont la création a été soutenue par plusieurs académiciens, Marc Fumaroli, par exemple, de l'Académie française, Michel Zinc, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Éric Orsena aussi, et Rémi Brague, bien sûr. Alors Rémi Brague, lui, est philosophe, professeur de philosophie, spécialiste de philosophie médiévale, mais aussi spécialiste de l'histoire des idées et des religions. Vous siégez à l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2009. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, vous avez remplacé Jean-Marie Zimbe. Vous enseignez aussi la philosophie arabe à la Sorbonne et la philosophie des religions européennes à l'Université Ludwig-Maximilian de Munich. Et on vous doit plusieurs ouvrages sur Aristote notamment, et aussi un ouvrage intitulé « Europe, la voie romaine » paru en 92 et régulièrement réédité chez Folio. Voilà, j'ai présenté rapidement nos invités. Cécilia Susoni, avant d'en venir au latin et au cœur du sujet de cette émission et de ce livre, pouvez-vous nous rappeler les objectifs de l'association ALE ?
Volontiers. Écoutez, elle a été créée donc en mai 2008 et inaugurée par le poète Yves Bonnefoy. Et elle a été donc fondée à l'initiative de professeurs des classes préparatoires littéraires des lycées Henri IV et Louis le Grand. Dans le souci finalement de réagir bien sûr contre l'effacement progressif du latin comme référence majeure de notre enseignement littéraire en particulier, dans un souci délesté, c'est ce que nous avons voulu essentiellement, délesté de tout patriotisme disciplinaire, de manière à bien faire comprendre que le latin est une langue œcuménique, une langue qui devrait être au service de toutes les disciplines, de la mémoire et du langage.
Et d'ailleurs, vous avez à la fois des scientifiques
voilà,
dans votre
nous
bureau.
Avons une composition plurielle du bureau, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, histoire. Nous avons des adhérents qui viennent de toutes les disciplines.
Combien d'adhérents avez-vous maintenant?
Autour de 200 à peu près, qui est très raisonnable, hein, compte tenu de la, finalement, jeunesse, d'une certaine manière, de cette association.
Oui, mais
et puis beaucoup de sympathisants. Beaucoup de sympathisants.
Très bien. Voilà. Et vous organisez donc des conférences qui sont publiques, on peut
des
aller.
Des conférences qui sont publiques, bien sûr, ouvertes à tous, gratuites, bien sûr, et que nous mettons ensuite en ligne sur notre site.
Très bien. Rémi Brague, vous, dans cet ouvrage, Sans le latin, votre nom figure deux fois. Vous ne manquez pas de le souligner dans votre introduction, mais ce n'est pas un reproche, rassurez-vous. Dans la préface, vous avez intitulé cette préface « Perdre son latin ». Et puis, dans le texte de la conférence que vous avez donnée dans cette association, ça s'intitule « La voie romaine ». Alors, Rome, écrivez-vous, vous la voyez moins comme un fait que comme un modèle culturel qui structure bien des aspects de notre présent. Rome n'appartient pas au passé, c'est plutôt nous qui appartenons à ce passé. Et nous y tenons d'abord par la langue latine. Alors, que le latin soit sous-jacent dans toutes les langues romanes, on s'en doute, c'est assez évident, ça va du français au roumain. Mais pour vous, il est autant présent dans l'ensemble des langues européennes, même dans les langues anglo-saxonnes?
De plus en plus. Si l'on regarde l'évolution de l'anglais, par exemple, on s'aperçoit qu'il subit une sorte de dérive constante depuis ce que les Anglais eux-mêmes appellent le saxon, jusqu'au normand. Le normand, c'est-à-dire le français, qui est lui-même d'origine latine. Si vous comparez par exemple un texte britannique et un texte américain, vous constaterez qu'une quantité de termes d'anglais saxon venus de Grande-Bretagne sont refoulés par des expressions qui sont en fait d'origine latine. que cela ait à voir avec l'influence croissante des Américains d'origine hispanique est une possibilité. Je crois qu'il s'agit d'un mouvement de plus grande ampleur. Il a commencé bien avant que les Mexicains ou les Portoricains, en tout cas d'autres Latinos comme on dit, arrivent en masse dans le sud des États-Unis. Je crois qu'il s'agit d'un souci de, disons, de clarté.
L'influence du latin, elle a duré des siècles, c'est une évidence d'une certaine façon, et vous dites que la présence du latin imprègne aussi bien les héros conservateurs que les grands subversifs. Alors, on a envie de comprendre ce que vous entendez par les grands subversifs.
Je ne me souviens plus trop de la phrase dans laquelle
j'ai risqué cela. Vous avez cité Nietzsche, par exemple.
Ben, écoutez, nous avons dans Ecce Homo, donc la dernière œuvre de la vie consciente de Nietzsche, un passage dans lequel il dit que on n'apprend pas des Grecs. Grecs que pourtant il admirait d'une manière
beaucoup.
Peut-être excessive, un petit peu comme c'était la mode dans l'Allemagne d'après Winckelmann et d'après Goethe. Mais il dit que ses véritables maîtres ont été plutôt des latins. Alors il nomme Salluste en particulier, et il nomme ceux qu'il considère comme les héritiers de cette romanité-là, en particulier Machiavel. Je crois cependant, si je puis me permettre, qu'on aurait le plus grand tort de vouloir jouer l'une contre l'autre les deux langues classiques. Bien au contraire, je dis que ce jeu est mené parfois lorsque l'on essaye de concevoir des systèmes dans lesquels un étudiant devrait choisir, d'abord un lycéen, puis un étudiant à l'agrégation devrait choisir entre le latin et le grec. Je crois que les Romains eux-mêmes ont donné l'exemple d'un refus de choisir et d'un bilinguisme volontaire. Alors si nous-mêmes devons avoir un rapport un peu vivant avec les langues dites mortes, c'est-à-dire ces langues dont la vie dépend de nous, ces langues que nous rendons vivantes...
Ou mortes, voilà, oui.
Ou que nous laissons à leur mort si nous décidons par un acte conscient de les oublier, eh bien nous n'avons pas à choisir entre les deux, bien au contraire.
Oui, en effet, Cecilia Susoni, je vois que vous approuvez les propos de Rémi Brague et vous êtes même très sensible à cette opposition qu'on veut faire de temps en temps entre le latin et le grec. Alors, quelle est la différence ?
Je la trouve contre nature et je la trouve lourde de conséquences et d'étourderie, finalement. Il y a un point qui nous paraît très sensible et très important, nous avons essayé de le dire dans notre avant-propos, c'est d'abord que le latin, si je peux revenir d'abord à cette question du latin, donc la langue ancienne du français, et que son effacement finalement finit par rendre quelque peu illisible ce que nous avons appelé le roman familial du français, c'est-à-dire finalement l'histoire très, très passionnante, avec des avatars très divers, bien sûr, qui nous, la naissance de la langue vernaculaire du français, qui s'est faite sous la tutelle du latin. Et puis aussi, et justement Rémi Brague en disait un mot à propos de l'anglais, c'est aussi rendre illisible, d'ailleurs Steiner aussi le disait, Georges Steiner dans ses essais, c'est rendre illisible aussi toutes les littératures européennes, qui se sont nourris de ces négociations ininterrompues entre le français et le latin. Donc il y a déjà ce point qui est fondamental, qui fait que l'effacement du latin donc, mène à une impasse qui est de l'ordre du savoir, tout simplement. Et alors, pour rebondir sur ce que nous disait Rémi Brague, la question du latin et du grec, je pense qu'en arriver effectivement à autoriser d'une manière ou d'une autre, hein, par des voies directes ou indirectes, un étudiant de lettres modernes, par exemple, bon, à perdre son latin parce qu'il pourrait choisir le grec, c'est quelque chose de grave, parce que finalement on banalise, on entérine une situation qui au fil du temps fait que voilà, on pourra faire soit du grec, soit du latin, mais en perdant de vue effectivement ce bilinguisme fondamental et initial qui fait que la langue latine, finalement l'altérité, elle a pour ainsi dire incluse en elle avec le grec. Et surtout, c'est aussi aller à l'encontre quand même d'une vérité fondamentale, qui est quand même le latin reste cette langue ancienne du français. Et que de ce point de vue-là, c'est vrai que, alors par rapport au grec, et sans que naturellement il s'agisse de rentrer dans un combat ou dans une concurrence absurde, le latin touche, s'agissant je dis bien du français, et de l'héritage quand même particulier, singulier, de l'humanisme renaissant, le latin donc touche davantage en nous, malgré tout, au propre historique. Que le grec, c'est une réalité. Vous disiez, Rémi Brague, dans votre conférence, je crois, que finalement le latin a toujours frayé la voie au grec. C'est ce point-là qui nous paraît très important. Moi, je suis helléniste, comme vous le savez, j'adore le grec, je l'ai enseigné avec passion, et je suis d'autant plus sensible à cette forme de transmission. Le latin a frayé la voie au grec, et je pense que d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, les conférences que nous avons publiées évoquent cette question de manière directe ou indirecte. Et par exemple, Michael Edwards, qui a beaucoup travaillé sur ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait la présence, y compris d'ailleurs bien sûr dans la langue poétique, peut-être surtout la présence du fond franco-latin dans la poésie anglaise, c'est quelque chose de fondamental.
Michael Edwards, que nous retrouvons aussi sur Canal Académie, puisqu'il est venu professeur au Collège de France et qui a donné plusieurs émissions sur Canal Académie. Rémi Braque, je reviens à une phrase que vous avez écrite. « Et Romain, quiconque se sent un tarvenu, un parvenu, un barbare à dégrossir, un boursier qui a beaucoup à compenser et qui sait qu'il lui faut s'y atteler avec courage. » Alors comment est-ce que, justement, Rome peut être un modèle pour nous aujourd'hui ? En Europe, je veux dire.
Cette phrase condense ce que je crois avoir montré dans 200 pages du livre que vous avez, je crois, cité au début et qui s'appelle Europe, la voie romaine, avec bien entendu un de ces calembours dont je suis friand, sur l'idée de voie, n'est-ce pas ? Rome n'est plus dans Rome, par définition, si je puis dire. Rome est partout où il y a des voies, et des voies qui, là aussi par définition, mènent ailleurs que là où elles sont. Une voie, ça n'est rien d'autre qu'un mouvement, qu'un dynamisme. Il me semble que, historiquement parlant, c'est un des grands mérites de la Rome de l'histoire, qui a fait du bien et du mal, comme toute civilisation d'ailleurs, et qui n'a pas été l'empire le plus bête qui soit, loin de là. C'est un des grands mérites, disais-je, de la Rome historique, d'avoir su que, culturellement parlant, ils étaient des petits garçons et qu'ils avaient à apprendre de ceux qu'ils considéraient comme leur étant supérieurs, même s'ils leur avaient flanqué une pâtée magistrale sur le champ de bataille au point de devenir maîtres de l'espace grec. Eh bien, ils ont senti qu'en astronomie, en médecine, en mathématiques, en rhétorique, enfin, dans tous les domaines du savoir un petit peu supérieur, les Grecs les battaient à plate couture. Ce qui aurait pu se transformer en un simple sentiment de supériorité par rapport à ces gens raffinés, trop raffinés, décadents. Eh bien, ils ont choisi le contraire, à savoir de se mettre à l'école. Je crois que c'est une leçon pour toute civilisation, pas seulement pour la nôtre, mais c'est une leçon peut-être plus spécialement encore pour l'Europe, puisque l'Europe a justement commencé à exister à partir du moment où elle s'est dit qu'elle aussi n'était peut-être pas si maligne que cela et qu'il lui fallait se mettre au travail pour s'approprier tout ce qu'elle trouvait de beau, tout ce qu'elle trouvait de bon, tout ce qu'elle trouvait d'instructif avant elle et même en dehors d'elle parmi les civilisations qui lui sont contemporaines. Donc le modèle romain d'appropriation me semble être ce qui a fait avancer, parfois malgré elle, l'Europe. Et peut-être pourrions-nous en prendre nous aussi de la graine.
Oui, certainement. Et vous dites aussi que si on perdait le latin, parce qu'après tout on pourrait l'envoyer promener, on perdrait beaucoup plus qu'une langue. Que voulez-vous dire par cette phrase ?
Eh bien, j'ai réfléchi d'une manière mi-plaisante, mi-sérieuse, sur l'expression que j'ai choisie comme titre de ma préface, à savoir « perdre son latin ». Quand on dit « j'y perds mon latin », ça ne veut évidemment pas dire que l'on oublie comment décliner Rosa. Cela veut dire que l'on perd le sens, qu'on cesse de comprendre. Le latin, précisément parce que c'est une langue qui, pour nous, est artificielle, c'est une langue que nous choisissons de rendre vivante, à laquelle nous choisissons d'insuffler ou non la vie, peut fonctionner comme une sorte de modèle de notre rapport au sens. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas spontané, quelque chose que nous n'avons pas dans le sang, quelque chose que nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes parce que ça y est entré involontairement, quelque chose que nous ne pouvons pas recracher parce que nous l'avons sucé avec le lait de notre nourrice, mais quelque chose que nous devons construire, quelque chose que nous devons produire par un travail, par une élaboration conceptuelle qui, je suis philosophe dans le civil, donc m'intéresse moi particulièrement.
Cécilia Susoni, vous avez dans votre introduction des convictions fortes que vous exprimez. Par exemple, il y a celle-ci, organiser la disparition des filières qui permettaient de maintenir un bon noyau de langue et de culture latine chez les enfants de France, c'est organiser la disparition de la langue et de la culture française.
Oui.
Vous persistez, vous signez.
Oui, bien sûr. Nous, Libéraux Petit et moi-même. C'est-à-dire que nous sommes des professeurs qui enseignons également la littérature française. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé au cours de ces 15 ans d'enseignement donc, du français et la littérature française, c'est de voir à quel point, malgré tout, la littérature française de Montaigne à Valéry, au moins, est une littérature latine. Ce n'est pas une découverte de Cagneux précieux et désuet, cette latinité profonde, essentielle. C'est un point quand même fondamental, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donné également la parole à des poètes, Yves Bonnefoy, Michel Deguy, dans notre comité d'honneur, donc le poète Jean-Pierre Lemaire et d'autres également, parce que nous avons eu le souci de montrer que le latin est à la fois, comme le disait Rémi Brague, une langue du sens, une formidable réserve de sens et de savoir dont on ne peut pas, je crois, se passer, mais qu'il est également, et ça c'est aussi la démonstration de la belle postface de Yves Bonnefoy, le latin, la démocratie, la poésie, c'est également une langue poétique. C'est une langue qui a secrété du fait poétique. Et donc il nous faut un petit peu tenir cette double parole du latin. Alors, il y a aussi, et là je rejoins complètement ce que dit Rémi Brague, il y a aussi le fait très rassurant que le latin est une langue qui déjoue effectivement toute tentation de repli identitaire, frileux, atavique. Le latin est une langue métissée, enfin, dès l'origine, et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une leçon, parce qu'elle nous vaccine contre le fantasme d'une langue ontologique, d'une langue effectivement primitive. Et ça rejoint un petit peu cette idée que, en littérature, effectivement, comme nous le disons, on n'habite jamais sa langue. On n'habite pas sa langue comme un chez-soi casanier. Et donc le latin, et tout le clavier ici du latin, parce que le latin c'est plusieurs latins, ce n'est pas seulement un latin, jusqu'au néo-latin qu'on oublie souvent, donc, à notre sens, doit continuer d'insuffler ce rapport à la littérature. Que de fait il insuffle, hein, qu'on le veuille ou non.
Mais vous parlez d'une disparition programmée, ça veut dire qu'il y a véritablement une volonté, et quels en sont les effets ?
Nous parlons d'une situation programmée parce que je reviens sur cette grande étourderie. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Il s'est passé qu'au fil du temps, on a renoncé finalement au latin, évidemment, qui a fait l'objet de procès très vigoureux, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il y avait des procès à engager. Et les latinistes ont leur part de responsabilité. C'est pour ça que nous disons, il n'est pas question de revenir à un enseignement du latin à l'identique. Il n'est pas question d'instrumentaliser le latin comme il a été pendant des décennies pour apprendre aux petits français à parler latin en français. Mais il s'agit de savoir ce que parler veut dire, et nous situons surtout au niveau donc d'un professeur qui enseigne la langue française à son plus haut niveau et qui, de fait, doit intégrer la connaissance de la langue latine dans cet enseignement du français. Et donc, banaliser cet effacement du latin, c'est quand même quelque chose d'inédit, d'assez inouï, et qui s'est fait progressivement, sans débat de fond, finalement. Parce que faire le procès d'un latin outil de sélection sociale, c'est une entreprise sociologique qui est tout à fait intéressante et qui a été faite, mais en aucune manière, elle ne permet, elle n'autorise scientifiquement parlant, de dire, voilà, bon, le latin, c'est une vieille lune, on n'en parle plus, au secours, le latin revient, parce que c'est la langue de l'autorité, ça a été la langue de l'Église, etc. Vous voyez, dans quel, finalement, paysage nous nous trouvons, et qui fait que nous œuvrons avec beaucoup de militantisme, d'une manière.
C'est le fait qu'il soit devenu optionnel qui est un problème.
Alors là, je vous remercie de prononcer le mot, parce que je crois que la grande étourderie, et c'est là où je vous parle d'un débat qui n'a pas été mené, ça a été ce renoncement passif et irréfléchi à l'abandon du latin, donc, et à son optionnalisation. Parce que dès qu'on optionnalise une langue quand même qui est une langue aussi fondamentale, on la laisse dépérir. Et c'est vrai que le latin se porte mal. On dit souvent que le grec se porte mal. Le grec a toujours eu, évidemment, un noyau d'hellénistes moins important que celui des latinistes, parce que, de fait, le latin et le grec, hein, dans le cursus d'un enseignement, mais là, le latin se porte beaucoup plus mal qu'on ne veut bien le dire.
Mais ce n'est pas parce que le grec se noie qu'il faut laisser aussi se noyer le latin.
C'est ce que nous disons. Il ne s'agit surtout pas de s'imaginer qu'on peut sauver le grec en laissant le latin dépérir. Je crois que c'est un raisonnement qui va à contresens de ce qui est souhaitable.
Alors, dans les arguments de ceux qui programment ce renoncement, j'en ai relevé trois dans votre livre. L'humanisme ringard, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire au secours, c'est la langue de l'Église, alors surtout, ne revenons pas. La laïcité aussi, c'est d'ailleurs le même discours, c'est parce que, justement, le latin est connoté.
Oui, parce que le souci de justifier finalement l'effacement du latin au nom, parce que c'est quand même des arguments que l'on entend très souvent, au nom donc du triomphe de la démocratie et de la laïcité, nous paraît effectivement un argument très impudent. D'abord parce que justement le latin a été le fer de lance de combats très progressistes. Et encore une fois, quelqu'un comme Gracchi, par exemple, dans ses carnets de prison, dit dans un éloge vibrant du latin à quel point il sera difficile ou il serait difficile de le remplacer par une autre langue aussi forte, aussi dense et aussi chargée effectivement de savoir et de réflexion. Et c'est pour ça que toutes les conférences que nous avons publiées ont finalement à cœur de montrer à un moment ou à un autre comment le latin, pour reprendre l'expression ici de Jacques Pigeot, est dans la traversée des savoirs. Et c'est ça qui nous paraît important de rappeler aujourd'hui. Et que non seulement ça n'est pas le triomphe de la laïcité ou de la démocratie, de son effacement, mais c'est l'effacement même, je dirais, d'un latin qui a été le fer de lance d'un humanisme, qui a conquis en avant d'un humanisme très qu'on ne peut absolument pas entacher d'un soupçon, d'académisme un petit peu ringard. D'ailleurs, vous savez, cet argument, Paul Venn lui-même disait à quel point il était vain, parce qu'il n'y a jamais eu d'humanisme grand-papa. Il y a toujours eu un humanisme mal compris, mal enseigné, qui a été effectivement l'apanage d'une classe, c'est vrai, à un certain moment et pendant longtemps. Mais il s'agit de rendre effectivement, enfin d'ouvrir un champ neuf au latin et de le rendre en quelque sorte à sa vocation de langue de savoir, qui est aussi une langue poétique, j'insiste beaucoup.
Et Rémy Brac, vous ne pensez pas aussi qu'il y a un effet de mode, c'est-à-dire on a un mépris pour tout ce qui est ancien, les langues anciennes, la littérature ancienne, au fond tout ça, ça ne sert à rien, occupons-nous de ce qu'il y a aujourd'hui, non ?
Là, vous venez de prononcer l'éloge le plus vibrant que l'on puisse imaginer d'une langue. Elle ne sert pas.
Pas d'utilité.
Elle n'est pas esclave. Ce qui sert, c'est le serf, c'est le servile. Une langue qui ne sert à rien, c'est une langue libre. Une langue qui sert à quelque chose, mais c'est celle qui porte sur son cou la trace du collier. Alors moi, je ne sais pas, quand on dit que quelque chose ne sert à rien, eh bien, je pense à cette notion d'éducation libérale. C'est-à-dire l'éducation qui n'est pas servile, l'éducation qui ne sert pas, qui ne courbe pas l'échine devant quoi que ce soit. Alors moi je dis, bah écoutez, la culture libérale, elle est par définition l'éducation de l'homme libre. On nous rebat les oreilles avec la démocratie contre laquelle je n'ai rien. Mais une démocratie dans laquelle personne ne serait libre, ça serait quoi ? Ça serait une sorte de despotisme dans lequel tout le monde serait égal parce que tout le monde subirait la même férule ou le même fouet du même garde-chiourme. Ça, je n'en veux pas. Alors, mais oui, bravo, enseignons des choses qui ne servent à rien. Ça apprend justement à ne plus servir.
Voilà une autre façon de voir l'éducation ou en tout cas l'enseignement. Une autre affirmation dans votre livre, Cecilia Susoni, c'est que le latin n'est pas une langue ancienne comme une autre, c'est la langue ancienne du français. Donc ça, vous y tenez beaucoup à le faire comprendre.
Ce n'est pas une langue parmi les autres. Enfin, Nietzsche disait d'ailleurs que ni le grec ni le latin ne sont des langues parmi les autres, bien sûr. Mais dire que le latin n'est pas une langue ancienne parmi les autres, ça veut dire qu'effectivement, c'est la langue ancienne du français. De ce point de vue-là, j'insiste beaucoup quand même, nous insistons beaucoup, Hubert Repetit et moi-même, sur la responsabilité particulière quand même de l'enseignement français, et européen aussi d'ailleurs, quant à cette transmission quand même de cette langue. Ce n'est pas du tout opéré, si vous voulez, une sorte de regard nostalgique sur un roman, une épopée nationale de la langue française, moi s'en faut. C'est simplement, encore une fois, être attentif à l'histoire du français et à ce rapport qu'il a toujours eu, très étrange d'ailleurs, très conflictuel, amoureusement conflictuel avec le français. Ce qui est frappant quand même quand on regarde de très près l'histoire de la langue française, c'est que le latin ne lui a jamais manqué d'une certaine manière. Et que, en particulier pour nous, français, l'étymologie par exemple n'est pas seulement l'archéologie du mot. L'étymologie nous ramène naturellement à l'étumone, c'est-à-dire en amont du mot, mais toujours en même temps au plus à actuel, au plus présent.
Toutes les couches.
Ce n'est pas l'oubli. Il y a toutes ces couches et il y a surtout ce phénomène quand même très étonnant qu'on ne prend pas en compte suffisamment, c'est le processus de relatinisation du français à plusieurs moments de son histoire et qui fait qu'effectivement, paradoxalement, le latin, si insistant dans notre langue, l'est peut-être moins par son origine que par son développement et son extension la plus récente d'une manière.
On le voit aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de mots latins dans les noms des marques, dans la publicité. Il y a beaucoup de mots qui reviennent.
Il y a un effet de mode, mais de fait, historiquement, la langue française a été relatinisée. Et c'est bien pour ça qu'il y a un bilinguisme, effectivement, qui fait dire, par exemple, à Henriette Walter que de toute façon, nous sommes latinistes sans le savoir. Nous avons tous le latin au bout de la langue. Mais enfin, quand on enseigne le français dans un paysage éducatif, mieux vaut quand même le savoir.
C'est préférable. Rémy Brague, une dernière conclusion avant que nous terminions cette émission. Peut-être y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé.
Je ne suis pas le flic qui, dans une série télévisée, dit ici les questions, c'est moi qui les pose. Non, c'est vous qui les posez, au contraire. Écoutez, la conclusion que j'aurais envie de donner, c'est qu'il ne faut peut-être pas considérer que la cause, mot latin, est entendue. Et que cela n'est pas par des célébrations hypocrites des langues anciennes, que l'on compensera les décisions très concrètes qui, prises par quelque obscur gratte-papier au fond de quelque poussiéreux ministère, ont tendance à pousser le latin en dehors de notre champ de vision. Et il me semble que ça serait faire un très mauvais calcul que de considérer que parce qu'un imbécile a pris une décision, un imbécile B serait obligé de prendre la même. On peut espérer que quelqu'un de moins imbécile, qui sera C, D ou E, je ne sais pas quoi, saura repenser tout cela. On nous bassine depuis quelques dizaines d'années avec le mot « débat ». Eh bien, moi, je souhaiterais qu'il y ait un véritable débat.
Qui n'a pas eu lieu, à votre avis, encore.
Mais,
c'était votre avis aussi.
Comment dire, la notion même de débat est noyée par les choses dont on dit qu'elles ne font pas débat. Elles ne font plus débat, tout le monde est dans le consensus, encore un mot latin. Alors là, vraiment brut de décoffrage, moi je souhaite qu'il y ait véritablement des débats autour du latin et pas des concertations de béni oui-oui qui sont déjà tous d'accord sur le fait que cette langue ne va pas nous aider à vendre davantage de blue jeans ou davantage de Coca-Cola.
Sur ces mots de Rémy Brague, je vous invite à prolonger cette réflexion en découvrant les 16 auteurs qui sont intervenus dans cet ouvrage, puisque ça reprend leur conférence en quelque sorte. Donc ça s'intitule, je le répète, « Sans le latin, point de suspension » avec Yves Bonnefoy, Frédéric Boyer, Rémy Brague, Jean Cannavaggio, Michel Deguy, Vincent Descombes, Michael Edwards, Yves Ersan, grand latiniste aussi, François Herzog, Denis Cambouchner, Jacques Le Rider, Pierre Manon, Jacques Pigeot, John Shedd, Monseigneur Turek et Romain Vignest. On voulait tous les citer, d'abord parce qu'il y en a beaucoup qui sont intervenus à Canal Académie, donc on peut les retrouver facilement. Ce livre est publié chez Mille et une Nuits, donc qui dépend de Fayard. Et puis, je vous remercie, je vous invite à consulter le site de l'association ALE et même à y adhérer, parce que c'est possible de donner son adhésion, et je vais même dire le prix de cette adhésion, 5 euros pour les élèves étudiants et 10 euros pour les autres. Donc, ça n'est pas trop cher. Merci à vous tous.
Merci
à bientôt.
À vous.
Merci, madame. Merci, monsieur.